Alors, que restera-t-il une fois que le temps se sera écoulé? Que restera-t-il quand l'horloge n'avancera plus? Quand on y pense, il n'y a pas grand-chose en fait qui résiste à l'épreuve du temps. Tout finit par disparaître un jour, n'est-ce pas? Vous connaissez toutes ces légendes qui concernent l'élixir de jeunesse, la quête d'un moyen pour ralentir l'horloge. Et grâce au progrès de la médecine, on est arrivé à prolonger la vie de quelques années, mais on est toujours loin de l'immortalité, n'est-ce pas? Peut-être que si on demandait aux centenaires de nous donner la recette d'une vie longue, ils nous livreraient leur petit secret. C'est possible. Par exemple, récemment, une centenaire italienne a dit qu'il était important de boire beaucoup d'huile d'olive chaque jour pour la longue vie. Et c'est vrai que d'huile d'olive, ça a des effets positifs sur la santé, mais de boire des litres comme ça, je ne suis pas convaincu. Mais une centenaire anglaise du nom de Winnie Longley a fumé un paquet de cigarettes chaque jour depuis l'âge de 7 ans. En fait, elle a utilisé la flamme d'une de ses bougies d'anniversaire pour allumer sa 170 millième clope. C'est pas mal ça. Et donc peut-être que c'est le tabac qui prolonge la vie. Mais pour Jeanne Calment, la Française doyenne de l'humanité, qui est morte à l'âge de 122 ans, le secret d'une longue vie, c'était de manger 1 kilo de chocolat par semaine. 1 kilo de chocolat par semaine. De plus, elle mettait toujours de l'ail dans la viande qu'elle mangeait et du sucre dans ses boissons. Voilà la recette d'une longue vie. Sauf qu'une centenaire américaine a dit, quant à lui, que sa longue vie était due au fait de s'être adapté aux nouvelles technologies et de rester toujours optimiste dans la vie. Et d'autres centenaires parlent de la nécessité d'avoir une attitude positive, de faire de l'exercice physique, d'avoir la foi en Dieu, des fois, et d'avoir une bonne alimentation. Voilà. Et si vous avez déjà jeté un œil aux généalogies que l'on trouve dans Genèse chapitre 5, vous avez sûrement remarqué les âges incroyables de certains gars qui sont mentionnés dans ce texte. Mathusalem, par exemple. Mathusalem avait 969 ans lorsqu'il est mort. C'est presque 1000 ans. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Je me demande quelle était sa recette. Combien de cigarettes est-ce qu'il a fumé dans sa vie? Combien de kilos de chocolat est-ce qu'il a mangé pour vivre comme ça? Mais même pour Mathusalem, le temps s'est écoulé, n'est-ce pas? Et donc, que restera-t-il une fois que le temps se sera écoulé? La réponse, la seule réponse possible se trouve dans l'éternité, c'est-à-dire dans quelque chose ou dans quelqu'un qui n'est pas soumis au temps. En fait, la Bible nous rappelle que le temps s'écoule, mais que Dieu demeure. Dieu demeure. Depuis quelques semaines, je souhaitais que nous lusions et que nous étudiassions la suite du livre de l'Ecclésiaste. Et dans ce chapitre, le chapitre 3, il y a trois points que je voudrais aborder aujourd'hui. Premièrement, le temps concerne tout. Le temps concerne tout. Deuxièmement, le temps nous asservit. Et troisièmement, le temps est soumis à Dieu. On va étudier ces trois points plus en détail en quelques instants, mais d'abord, je vais lire Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 15. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 15. Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se faire ou se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est bon en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui est a déjà existé. Ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Que ta parole, Seigneur, habite en nous dans toute sa richesse pour que nous apprenions ta vérité et que nous vivions en nous appuyant sur tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Le temps s'écoule, mais Dieu demeure. Ces 15 versets nous montrent le fait que nous ne pouvons pas échapper aux effets du temps. Il y a des fois où on aimerait que le temps passe plus lentement, comme quand on est en vacances par exemple, j'imagine. Mais il y a des fois où on aimerait que le temps passe beaucoup plus vite, comme quand quelqu'un prie un peu trop longtemps avant un repas, ou quand Alex prêche ou donne un exposé à l'église. Je plaisante, mais ce que ce texte nous montre, c'est que nous ne sommes pas les maîtres du temps. Nous ne sommes pas les maîtres du temps. D'abord, regardez les versets 1 à 8. Les versets 1 à 8. Vous pouvez remarquer tout de suite la nature cyclique du temps que l'auteur souligne dans ce poème. Ces versets nous montrent qu'on ne peut pas échapper aux effets du temps. Le temps concerne tout. On ne va pas passer beaucoup de temps sur chacune de ces paires, mais je veux attirer votre attention sur quelques détails qui nous montrent l'idée plus générale de ces versets. Les versets 1 à 8 constituent un poème en hébreu. Et ce poème en hébreu est organisé autour de 14 paires opposées, deux fois le chiffre de la perfection, qui est 7 dans la Bible. Ou autrement dit, deux fois l'idée de quelque chose de complet. À travers cette liste assez variée, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste touche à toutes les activités importantes de la vie, aux émotions, par exemple, aux fêtes, au travail, aux relations. Le verset 2 nous présente le début et la fin de la vie. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Et les versets 3 à 8 font référence à tous les détails de la vie qui se trouvent entre le moment de la naissance et le moment de la mort. Ce qui est clair dans ces versets, c'est que le temps concerne tout. Le temps concerne tout. Ce qui est moins clair, par contre, c'est de savoir si l'auteur de ces versets se positionne plutôt comme étant pessimiste par rapport au temps ou plutôt comme étant réaliste. Est-ce qu'on a raison de désespérer à cause de la futilité du temps ou est-ce qu'on est encouragé par la souveraineté de Dieu sur toute chose? C'est ça la question. Et j'ai tendance de penser que l'auteur de ce texte, celui qu'on appelle le Kohelet ou le philosophe qui écrit ce livre, nous présente tout simplement la réalité du temps qui passe. Le Kohelet nous a déjà montré, à la fin de chapitre 2, qu'il commençait à voir en Dieu la réponse à la vanité, à l'absurdité de la vie. Le Kohelet a déjà reconnu Dieu comme étant proactif dans l'univers. Et avec sa connaissance de Dieu, il nous parle, au verset 1 de ce passage, de la vie sous le ciel, pas la vie sous le soleil. Est-ce que ça suggère un changement dans sa réflexion? Peut-être une forme d'optimisme cette fois? Il y a en tout cas des raisons de penser que le ciel et le Dieu qui occupe le ciel entrent en compte dans le discours du Kohelet dans ce passage. Mais même pour nous aujourd'hui, il y a deux manières de percevoir le temps. Nous pouvons imaginer que le temps est comme une bombe à retardement qui fait son décompte terrifiant jusqu'à l'explosion lorsque s'achève notre vie. Et donc le temps, c'est plutôt négatif. Il s'écoule et on meurt. Dans ce monde-là, dans un monde où il n'y a pas d'espérance en Dieu, le temps est comme une bombe à retardement. Ou sinon, on peut imaginer le temps plutôt comme l'horloge dans une gare, qui fait son décompte elle aussi, jusqu'à l'arrivée du train qui transporte notre amoureux, notre amoureuse. Dans ce monde-là, nous vivons dans l'anticipation joyeuse de quelque chose, n'est-ce pas? Dans ce monde, dans un monde où il y a un souverain maître du temps qui nous offre la vie éternelle dans sa présence, le temps prend une signification différente. Le temps s'écoule, mais Dieu demeure. Mais l'idée qu'il y a un Dieu qui serait le maître du temps devient plus compliquée au verset 9 à 13 dans ce texte. Que fait Dieu? On va poser cette question. Que fait Dieu pour nous libérer de l'esclavage du temps? On a l'impression que Dieu est maître du temps, mais que le temps est maître de nous. Et donc, qu'est-ce que ça produit finalement? Les versets 9 à 13 nous font comprendre ce deuxième point, à savoir que le temps nous a servi et qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour changer cette réalité. Regardez le déroulement de versets 9 à 13. La question rhétorique du verset 9 et la réponse qui est donnée au verset 10 nous montrent que l'homme est vraiment coincé, tyrannisé par le temps. Il y a un temps pour tout, sauf pour une vraie satisfaction. Mais c'est le verset 11 qui me frappe le plus. Tout ce que Dieu fait est beau en son temps. Mais comment serait-ce possible pour un être mortel de voir et d'apprécier la beauté de ce que Dieu a fait? Il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Mais comment serait-ce possible pour l'homme, limité par sa finitude, de saisir cette éternité? Une des questions que l'on pose dans ce qu'on appelle la théologie naturelle est la suivante. Comment peut-on aider les sceptiques à reconnaître ce sentiment de l'éternité qui existe dans leur cœur, dans le cœur de chacun? On va donc employer divers arguments pour pointer les gens vers cette réalité de l'éternité. Par exemple, on peut employer un argument qui est très connu, l'argument cosmologique, qui dit que les choses qui commencent à exister dans le temps et dans l'espace doivent avoir une cause. Cette cause ne peut pas être causée elle-même, et donc il faut une cause qui n'est pas causée. Puisque l'univers a commencé à exister, il faut à l'univers une cause éternelle qui puisse expliquer logiquement son existence. Alors, l'argument cosmologique est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est juste pour illustrer l'idée, là. Ou des fois, on emploie l'argument moral, qui dit que le sentiment de justice, et donc d'injustice, ne peut pas apparaître tout seul dans l'esprit de l'homme. La seule manière d'expliquer le sentiment de justice et d'injustice est d'affirmer l'existence d'un juge, ou en tout cas une source de justice supérieure à l'homme. Ça pointe vers un être éternel. On peut encore employer employer d'autres arguments, comme l'argument ontologique ou l'argument anthropologique ou l'argument des degrés de perfection, des choses comme ça. Et tous ces arguments de la théologie naturelle nous pointent vers quelque chose d'éternel. C'est ça le but. Et moi, je trouve que tous ces arguments sont utiles pour pointer les gens au-delà de cette vie sous le soleil. Mais ces arguments tout seuls sont incomplets, vous voyez? Ces arguments nous pointent vers Dieu, mais tout seuls, ils ne suffisent pas pour restaurer notre relation avec Dieu qui a été brisée. Et je trouve que c'est exactement ça la frustration du Colette au verset 11. Par notre raison, par l'observation de la création, on peut apercevoir l'éternité de loin, mais on ne peut pas la saisir tout seul. On sait par notre bon sens, par notre raisonnement qu'il y a un Dieu, qu'il y a un bonheur au ciel, mais on ne peut pas les atteindre tout seul. C'est comme le corps d'un nouveau-né qui reconnaît la faim, mais qui ne peut pas se nourrir tout seul. C'est comme une représentation des montagnes de la plage sur un écran. Nous savons que ces endroits sont réels et beaux, mais nous ne pouvons pas les toucher depuis notre salon, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas les atteindre. Nous ne pouvons pas passer la main à travers l'écran et saisir une poignée de sable. L'éternité est là, mais on ne peut pas l'atteindre. L'éternité est là, mais il n'y a rien qu'on puisse faire à part manger, boire et voir que ce qui est bon au milieu de tout son travail. C'est ça que dit le texte. Ce texte nous rappelle que le temps s'écoule et que Dieu demeure, mais est-ce qu'il nous sera possible à notre tour de demeurer comme Dieu demeure? La suite de ce texte nous propose une réponse qui se trouve en Dieu. Les versets 14 et 15 nous disent que Dieu a un plan pour le temps. Le temps est soumis à Dieu et à son bon plan pour cet univers qui lui appartient. Remarquez le contraste qu'il y a entre le poème de versets 1 à 8 et ce que dit le Colette au verset 14. Sous le soleil ou sous le ciel, il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose. Les versets 1 à 8 nous ont rappelé que sous le ciel, le temps passe et la vie change. Mais au verset 14, nous lisons qu'au-dessus du soleil et du ciel, il y a un Dieu qui ne change pas. Sa création change sous les effets du temps, mais les œuvres de Dieu dans sa création durent. C'est-à-dire que les actes de Dieu ont un sens efficace qui dure, qui lui rend gloire dans sa création. En fait, Dieu œuvre selon sa volonté pour le bien de sa création. Il œuvre afin de diriger nos yeux vers lui, de susciter en nous la crainte et l'admiration. Les versets 14 à 15 nous montrent que Dieu règle toutes choses selon son plan. Le temps, lui, est soumis. Ça me fait penser à la fin de Psaume 102 qui dit « Les cieux et la terre périront, mais toi, Dieu, tu subsisteras. Eux, ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. » Le temps est soumis à Dieu. Nous, par contre, ne pouvons pas surmonter les effets du temps. Nous essayons, bien sûr, mais le temps fait toujours son office. On se bat contre le temps, contre ses effets, mais en vain. Savez-vous que la France fait partie des 10 pays les plus consommateurs de chirurgie esthétique dans le monde? Si la peau commence à se rider, un peu de Botox, et ça règle le problème, n'est-ce pas? Il n'y a rien de moche qu'on ne puisse pas régler avec un peu de chirurgie esthétique. Mais en réalité, le temps nous rattrape. Peu importe ce que nous faisons Nous mourrons un jour. Le temps est souverain sur nous. Et Dieu est souverain sur le temps. On ne peut pas altérer le passé, mais au moins on peut se confier en Dieu pour notre avenir. Dans une version du film La machine à explorer le temps, c'est la version 2002, le personnage principal invente une machine pour voyager dans le temps afin de sauver la vie de sa fiancée qui est morte devant ses yeux. Mais malgré tous ses efforts, il ne peut pas altérer le passé parce que les événements précis de son passé conditionnent directement le fait que dans le présent, il invente la machine. Et donc rien ne change et à la fin il finit dans le désespoir. Le verset 15 de notre texte nous dit que Dieu ramène ce qui a disparu. Malgré ce que nous avons vécu dans le passé, Dieu a un plan qui règle tout à la fin. Mais est-ce que nous avons mis notre confiance en lui? Parce que même quand le temps s'écoule, Dieu demeure. Dieu demeure. Alors, il y a trois leçons en particulier que nous pouvons tirer de ce texte. D'abord, nous devons nous fier au plan de Dieu. Nous devons nous fier au plan de Dieu. Le temps s'écoule, mais le Dieu qui demeure nous connaît chacun personnellement. Le Dieu qui demeure éternellement connaît votre passé. Il connaît vos luttes. Il connaît vos regrets. Dieu connaît vos incertitudes concernant votre avenir. Il sait que vous avez des incertitudes concernant votre travail ou votre retraite. Il sait que vous avez des doutes, des soucis par rapport à votre santé, vos relations, toutes vos grandes décisions, quelles qu'elles soient. Mais le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, nous rappelle que malgré les changements qui se produisent sous le soleil, il reste toujours un Dieu chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce Dieu a un bon plan pour sa création. Un plan qui finira par sa victoire sur les effets néfastes du temps. Mais la deuxième chose qu'on peut tirer de ce texte, c'est que nous devons bien utiliser le temps que Dieu nous donne. Le temps que nous avons sur terre, c'est un morceau de l'éternité. Notre temps sur terre, c'est un cadeau précieux de la part de Dieu. Et nous devons nous poser la question, comment est-ce que je dois employer mon temps? Éphésiens chapitre 5, verset 16, nous invite à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons donc honorer Dieu par notre emploi du temps. Nous devons apprendre à reconnaître le temps auquel nous sommes. Est-ce que c'est un temps pour démolir ou un temps pour bâtir? Est-ce que c'est le moment de pleurer ou le moment de rire? Il nous faut cette sagesse qui nous permet de reconnaître les temps que nous traversons et qui nous permet de répondre à ces temps d'une manière qui honore notre Dieu. Une bonne habitude sera de demander à Dieu « Quelle heure est-il ? » Quelle heure est-il ? Et en fonction de sa réponse, comment vais-je me comporter dans ce monde sous le soleil ? Et enfin, nous devons reconnaître que Christ satisfait la pensée de l'éternité que nous avons dans notre cœur. Dieu ne nous laisse pas seulement avec la pensée de l'éternité. Il transforme cette pensée en réalité. Comme je l'ai dit, la théologie naturelle nous montre qu'il y a un Dieu, mais aucun de nous ne peut surmonter sa propre nature pécheresse et restaurer sa relation avec Dieu tout seul. C'est impossible. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu connaît les temps. Dieu connaît les temps. Il sait qu'il y a un temps pour enfanter. Galates chapitre 4, verset 4 nous rappelle que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Mais Dieu sait aussi qu'il y a un temps pour mourir. Romains chapitre 5, verset 6 nous dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Dieu sait quel est le bon moment pour chaque activité sous le ciel, sous le soleil. Il a mis le désir de l'éternité dans notre cœur. Il a répondu à ce désir en envoyant son Fils Jésus pour mourir à notre place afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Si nous mettons notre foi en lui, le passage du temps prendra un sens positif. Lorsque l'horloge aura fini son décompte, nous passerons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et donc, même si le temps s'écoule, nous pouvons, par la foi en Jésus-Christ, demeurer avec lui pour toujours. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de ce que le temps n'est pas notre maître, mais que toi, tu es souverain sur toutes choses. Et que tu as un plan rédempteur pour ta création. Aide-nous, Seigneur, à employer notre temps pour ta gloire et à nous fier à ton plan pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen.